Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'association, je vous souhaite la bienvenue au Festival des Onuriques, à mes yeux, à la médiathèque. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer l'urban fantasy au travers du regard de quatre auteurs français, qui sont donc de votre à gauche, de votre droite, Joanne Elliott, Karine Bermouka, Éric Lhomme et Anne Fagoué. On va commencer par Joanne. Je lui ai demandé de se présenter en quelques mots.
Désolé. Oui, ça marche. Bonjour, je suis Joanne Elliott. J'écris de la littérature d'imaginaire depuis une bonne quinzaine d'années. Mais pour ce qui concerne plus précisément le sujet de cette petite... de ce petit débat, donc à savoir la fantaisie urbaine, en fait, je n'ai commis que deux romans, que deux ouvrages qui se rattachent proprement à ce genre, à savoir Fiery Acres et Fiery Thriller, réunis actuellement tous les deux sous le titre général de Fiery Stories, comme c'est original, chez Nemos, et le voilà, il est beau, il est magnifique, je le montre. Et c'est dans ces deux bouquins, j'ai imaginé comme personnage principal une fée renégate, car féministe et républicaine, ce qui fait tâche au royaume de Faerie, dont elle est finalement bannie, exilée chez nous pauvres humains et mortels de la surface, ainsi que nous sommes désignés, et donc elle se retrouve à Paris de nos jours, et elle doit se vivre comme une humaine. Sauf que bien sûr après... elle va vivre des tas d'histoires d'aventures, puisque certaines créatures du royaume de Faerie vont aussi s'immiscer en surface et elle devra s'y opposer. Voilà, pour présenter mes seules incursions dans ce genre que j'aime pourtant beaucoup.
Je m'appelle Karine Bermouka et j'ai écrit quelques petits livres à gauche à droite, et notamment le dernier bouquin qui est sorti qui s'appelle Féluid et Liotine, qui est un peu une histoire qui ressemble à vaguement à la tienne, puisque ça se passe aussi à Paris, puisqu'il y a aussi des fées qui n'ont pas fui le royaume, qui n'ont pas été bannies du royaume, mais qui viennent en mission à Paris, enfin du moins une fée vient en mission à Paris pour retrouver un bébé qui a disparu, ça c'est commun chez les fées, c'est l'histoire de bébé, et puis pour accessoirement régler un vieux conte qui date de 200 ans avec une de ses collègues, qui l'a un peu trahi pendant la Révolution française et elle a fini à la guillotine, mais comme les filles ont les têtes qui repoussent, c'est bien connu. Et du coup, voilà, ça se passe entre Paris et le sud de la France et ça cavale dans tous les sens. Monsieur.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Éric Lhomme et en fait, je n'ai écrit qu'une série d'urban fantasy. Dans un contexte un peu particulier, puisque c'est une série qu'on a commencé à écrire à deux avec Pierre Bottero, qui s'appelle A comme Association. Une série qui est actuellement terminée, 8 tomes. Alors, ça va être très original, parce que ça se passe à Paris. Visiblement, Paris attire les créatures un peu infées et autres. Il n'y a pas de fées quand même dans A comme Association, et c'est un Paris revisité. Je me suis amusé à garder la structure de Paris telle qu'elle existe, mais changer les noms de rues. Je crois que c'était plus amusant si les rues s'appelaient, par exemple, la rue Tolkien, ou la rue Pierre Bordage, etc. Ça mettait un petit peu de couleur dans la ville. Et l'association, c'est une organisation qui gère la cohabitation entre les humains et les créatures. Alors, elle fait bien son boulot parce que personne ne sait aujourd'hui que nous côtoient trolls, vampires, loups-garous, etc. Et cette association utilise pour maintenir le secret les compétences d'agents spéciaux choisis parmi les humains pour leur petit pouvoir. Et là, dans A comme Association, c'est l'histoire de deux agents stagiaires, parce que bien sûr, quand on a 15 ans, on ne peut pas être agent complètement, donc on commence par être stagiaire. Voilà le
je suis Anne Fakouri et clairement là pour des questions de parité. Donc on va commencer du plus récent au plus ancien. Vous inquiétez pas, j'en ai deux en fantasy urbaine, donc ça va aller vite. Le plus récent, c'est American Phase, non pas American Face, comme certains l'ont suggéré. Vous avez échappé au pire. Moi, j'avais suggéré Oui, vous mourir, hein, et l'éditeur n'a pas voulu. Voilà, on encore pourquoi. Alors, on n'est pas à Paris, on est à Chicago en 1925. Al Capone vient d'être exilé de Chicago. Il a un souci majeur, ce sont les fées qui ont envahi Chicago et qui nuisent fortement à ses deux principaux sources de revenus, c'est-à-dire l'alcool, la vente d'alcool illégale, et la prostitution, puisque les fées apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et donc ne poussent pas vraiment l'ouvrier de base à aller dans les speakeasies. Et il envoie donc quatre losers absolus, qui sont ces hommes de main spécialisés dans les fées, une bande qui est conduite par Old Odd, qui a été enférisé par une nymphe quand il était jeune et qui du coup a des crises d'asthme à chaque fois qu'il voit une fée, ce qui est très pratique quand on est spécialisé évidemment dans les fées. Et voilà, il les envoie sur une enquête parce qu'il est accusé d'avoir commandité le meurtre des dry, donc des anti-alcool. Et évidemment, je ne vous en dis pas plus. Et sinon, mon premier roman, c'était Le Clair Voyage, où là, c'est pas du tout la même chose. Comme vous l'avez compris, American Fest, c'est vraiment un roman d'aventure et dans une ambiance très mafieuse et jazzy. En revanche, Le Clair Voyage, c'était vraiment un hommage à Pierre Dubois qui a bercé mon enfance au travers de. Par Spirou dans Le Fabuleur du Petit Peuple. Et là, en revanche, c'est un roman sur l'équivalent des changelins, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'aperçoit que sa famille est liée aux fées. Et on est face à des fées qui ne sont pas du tout ni à paillettes, ni gentilles, qui sont les vraies fées folkloriques, c'est-à-dire qui ne connaissent ni le bien ni le mal, seulement leurs caprices, et qui vont évidemment l'entraîner dans une aventure. Voilà. Et j'ai dit qu'à l'arrivée, j'avais créé Xavier Dolo. Non. Voilà.
Merci aux quatre pour cette présentation un peu sommaire. J'ai remarqué déjà un point commun entre l'un d'entre vous, c'est qu'ils ont travaillé le sujet, grosso modo, l'intrusion du conte de fées dans un environnement urbain et souvent contemporain. Vous avez travaillé ça en duo. Donc j'aimerais savoir comment vous avez pu vous répartir un peu l'écriture sur ces deux romans, donc American Face pour Anne et puis Comme Association qui est une série pour Eric. Est-ce qu'il y en avait un qui était plus spécifiquement chargé de la partie féerique et un autre de la partie urbaine, ou est-ce que c'est complètement différent? J'aimerais avoir votre témoignage là-dessus si c'est possible. On va commencer par Anne.
En fait, moi j'ai un peu triché parce que Xavier Dolo est non seulement un auteur que j'admire beaucoup, mais en plus c'est un de mes meilleurs amis, donc c'était plus facile, on avait plein de références en commun. Et j'ai d'autant plus triché qu'à la base, le roman vient d'une nouvelle qui avait été commandée pour l'anthologie des Imaginales, qui s'appelle Du Rififi entre les oreilles, qui est disponible gratuitement sur le net maintenant. Donc à l'origine, c'était mon univers, c'était mes personnages, voilà, donc Xavier s'est greffé à ça parce que le directeur de collection de chez Critique a voulu un roman à partir de cette nouvelle, que moi je ne voulais pas écrire un roman d'aventure toute seule parce que j'avais peur de ne pas assurer sur les scènes d'action, bêtement, et que ça faisait longtemps qu'on voulait écrire un livre avec Xavier. Donc ça a été assez facile parce que comme on se connaît très bien, on s'entend très bien, on n'a pas eu, de gêne pour se dire quand ça n'allait pas. Donc on a beaucoup ri, on s'est beaucoup engueulé aussi sur certains trucs et ça a très bien marché. Maintenant, moi je m'intéresse plus à la structure, donc on a développé des idées ensemble. On a commencé à structurer ensemble, j'ai fait vraiment le découpage et après on s'est réparti les différents chapitres et les différents personnages parce qu'on avait quand même quatre personnages Et c'était la première fois qu'on écrivait à deux, et ça devenait très compliqué du coup sur, bah, sur le caractère des personnages, je faisais des choses complètement idiotes. Alors on s'est retrouvé à faire des fiches, moi c'est la première fois de ma vie que je faisais des fiches pour un roman, avec mais vraiment des questions logistiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la façon de s'habiller, la façon de bouger, etc. Et on a travaillé un peu comme si on faisait un jeu de rôle en fait, avec les backgrounds, avec l'intrigue, et on s'est greffé... On s'est greffé là-dessus, puis après on s'est retrouvé, Xavier habite à Rennes, donc on a dû se retrouver à plusieurs moments. On a passé des vacances géniales à Bréa, où notre directeur de collection bronzait sur la plage à côté de nous pendant qu'on travaillait. Et voilà, donc on avait un petit peu peur de travailler à deux, on se demandait comment ça allait se passer. Puis on a demandé plein de conseils à un autre binôme d'auteurs publié aussi chez Critique, qui sont Sylvie Miller et Philippe Ward, qui ont écrit La Serre, qui nous avaient quand même donné des tuyaux. Puis après, j'avoue, Xavier s'est occupé plus des scènes d'action pure. Moi, par moments, plus de l'ambiance féerique, qui est vraiment plus mon truc. Et voilà. Et alors après, nous, on a décidé, je ne sais pas comment vous avez travaillé, mais nous, enfin vous c'est différent parce que c'était un roman chacun. Donc comme c'était le même roman, on a décidé normalement pour les corrections, on fait des suggestions de correction dans la marge, là non. C'est-à-dire qu'on est passé chacun sur le texte en tapant directement dans la matière de façon à harmoniser les styles et sans même poser la question à l'autre. Donc ça a donné là aussi des grincements de dents par moment, mais ça a marché. Voilà. À part des lecteurs qui nous connaissent vraiment très bien séparément, en fait, notre grand jeu, c'est de dire, tu sais qui a écrit quel chapitre, et une fois sur deux, les gens se plantent complètement parce qu'on a justement harmonisé, voilà.
Oui, comme Anne vient de le dire, c'est un petit peu particulier puisque on a écrit cette série, en tout cas on l'a commencé, en écrivant un livre chacun. Ça faisait très longtemps qu'avec Pierre Bottero on avait envie d'écrire ensemble et on avait cette envie en même temps, on était en prise avec la réalité, on savait qu'on n'écrivait pas de la même manière et qu'il aurait été impossible justement de faire ce travail, d'être à deux sur un livre. Donc on a contourné le problème, on a choisi chacun un personnage, Jasper pour moi et Ombe pour Pierre. Et on s'est simplement donné un cahier des charges sur le ton à employer. On a mis en place l'histoire générale en se laissant suffisamment de marge de manœuvre. Et pour que nos livres ne fassent pas pièces qui se suivent ou qui se collent sans s'imbriquer, on a décidé que chacun de nos tomes, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., se déroulaient en même temps. Ce qui tout de suite a rendu les choses plus intéressantes, puisque quand nos personnages se téléphonaient ou se rencontraient, on pouvait voir la même scène d'un côté et de l'autre en lisant le livre, soit le mien, soit celui de Pierre. Et en fait, c'était extrêmement agréable à écrire puisque on se motivait par téléphone, par texto, par internet. En gros, ce qui nous motivait beaucoup, c'est que le premier qui imaginait une scène commune l'imposait à l'autre. Donc l'autre était obligé de faire avec. Et c'était pas toujours facile. Donc une fois qu'on subissait l'épreuve de la scène commune, on n'avait qu'une hâte, c'était d'avancer pour pouvoir créer sa propre scène et embêter l'autre à son tour. Ce qui fait que les quatre premiers tomes de A comme association ont été écrits en 4 mois, en fait. Donc, j'ai jamais été aussi efficace de ma vie. Et
la contrainte.
Ben oui, la contrainte dépassée, assumée et dont on se sert. Et bon, je ne m'attarderai pas, mais à partir du cinquième tome, évidemment, les choses ont changé, puisque Pierre est mort juste après avoir terminé le quatrième tome. Et donc, les 4 tomes suivants, je les ai écrits Alors, non pas en reprenant le personnage de Pierre, comme on venait de le faire, mais en déroulant l'histoire uniquement du point de vue de mon personnage à moi. Voilà. Avec une ruse narrative qui m'a permis d'embarquer malgré tout le personnage de Pierre avec mon héros jusqu'à la fin.
D'accord. Moi, ce que je remarque aussi dans vos écrits, c'est que non seulement il y a de la fantaisie et de l'environnement urbain, mais il y a également des morceaux que d'autres gens qui se promènent. Et là, je me tourne vers Joanne et Karim, parce que Joanne a mis un peu de science-fiction quelque part dans son récit. Karim aussi, donc j'aimerais savoir pourquoi et d'où ça peut venir, quelles sont les influences éventuelles.
Alors pour ce qui me concerne, pas tant de science-fiction, mais de technologie. Donc le premier que j'ai écrit, Fairy Hackers, les hackers de Fairy, oxymore. J'ai toujours aimé, dans la plupart de mes bouquins, quel que soit le thème, associer des choses qui a priori sont contradictoires, sinon opposées. Et donc je trouvais c'est assez amusant, tout en gardant un univers avec de la magie et des personnages classiques de Fairy. Il y a une fée, il y a des nains, des trolls, il y a enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a un méchant, un démon, et le moyen qu'il va utiliser pour se venger, c'est la technologie de pointe, en l'occurrence le jeu vidéo, l'informatique, etc. Donc c'est simplement voilà, la collision, la rencontre de deux univers complètement opposés qui m'ont toujours intéressé, tout simplement.
Alors ouais, non, il n'y a pas de science-fiction, j'ai pas mis de science-fiction dans le bouquin.
Il y a du polar.
Il y a du polar dedans, puisque l'idée c'était de faire une sorte de polar à l'ancienne, les années 50, même si ça se passe pas pendant les années 50, et puis de m'inspirer un peu des trucs que genre Tonton Flingueur, mais sans avoir la prétention de faire aussi bien. Donc non, si, de technologie, il y a quoi? Il y a les guillotines, et puis sinon, j'ai du polar dedans, voilà. On peut le lire autant comme un polar que comme un livre de fantaisie urbaine. Je pense que ça effraierait ni l'un ni l'autre, mais bon, je pense pas que c'est quelque chose de super original dans le fantastique d'avoir des incohérences avec le polar.
Et du coup, quelle référence tu verrais? Quelles influences, en fait?
D'influence au niveau de l'écriture, du bouquin?
Du sujet.
Du sujet, je sais pas. Alors là, franchement, d'influence directe, aucune. D'influence, tous les contes de fées. Mm-hmm. Parce que je me suis un peu inspiré des croyances qu'on pouvait avoir, des croyances sur les fées qu'on avait avant. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'y croit plus tellement. Et puis aussi, du polar. Du polar qui cavale dans tous les sens et des petits complots à gauche à droite. Avec des personnages un peu caricaturaux, avec un inspecteur, un détective, parce que dans les années 50, ils étaient tous détectives, et puis une sorte de. Et puis des faits complètement décalés par rapport à ce qu'on veut en faire généralement dans les contes de faits, c'est-à-dire des faits pas aimables, des faits qui méprisent complètement les humains, et qui sont pas du tout là pour être sympa, mais juste parce qu'elles ont des affaires à régler et que le plus vite elles rentrent chez elles, le mieux c'est. Voilà.
Ces personnages de fées qui sortent un peu du cadre, on les retrouve un peu aussi chez Anne, qui a décidé de leur donner des caractères très. On va dire. Elles sont pas très malignes.
Elles sont bêtes.
Elles sont complètement débiles. Pas toutes, il y en a des jolies aussi, mais dans l'ensemble elles sont complètement débiles, mais c'est ça qui était amusant. En fait, à la base, dans la nouvelle, le thème c'était elfe et assassin. C'est un peu dur, elfe et assassin, comme thème, surtout quand on fait du jeu de rôle, parce que là on se dit je vais tomber dans les elfes noirs, ça va être quand même très ringard et ça va m'ennuyer en plus. Et en fait je me suis dit les assassins que j'aime, moi j'adore la prohibition, donc ça va être des assassins d'Al Capone. Et du coup, il fallait un elfe. Et il fallait moderniser un elfe, puisque c'est dans un monde alternatif où les fées cohabitent avec les humains. Et je me suis dit, alors la nouvelle se passe en 1929, donc 4 ans après le roman. Je me suis dit, 1929, un elfe dans notre monde, qu'est-ce qu'il a pu faire de la fois pompeux, nébuleux et un peu chiant, bah, il a découvert la psychanalyse. Donc c'est un elfe psychanalyste qui arrive, qui est le neveu par alliance d'Al Capone dans la nouvelle, et qui arrive, parce que ça s'appelle Purifier entre les oreilles, qui arrive pour psychanalyser mes quatre losers, qui évidemment, on n'a rien à voir avec la psychanalyse, s'en foutent complètement. Et voilà, donc il fallait du coup du coup on est resté dans cette idée des fées marrantes et décalées, en prenant des stéréotypes, puis en les caricaturant vraiment. Donc il y a le léprechaun dans American Fée fait des faux billets, par exemple, parce qu'on est en 1925 à Chicago. L'indique de mes quatre losers, c'est une nymphe en fait du robinet, c'est une espèce de fée du robinet du coup qui passe dans toutes les canalisations, dans les égouts, qui ramène des informations. Puis il y a des choses un petit peu plus cracra que je vous raconterai pas, mais vraiment un peu plus cracra sur certaines utilisations de fées. Et
la fée du caca.
Non, ça ne se situe pas là. Mais c'est une bonne idée pour le deuxième tome. Mais voilà, donc le but, mais nous dans ce roman, on a vraiment voulu se marrer, donc il fallait des fées décalées. On a utilisé aussi les contes de fées, ce qui a été le sujet d'une des engueulades, parce qu'on a, enfin, notre conte préféré à tous les deux, c'est le briquet. Donc il a fallu savoir qui prenait le briquet. On a détourné des contes de fées comme ça, quatre contes de fées, le chaboté, Jack et le haricot magique, le briquet et le petit poussé. Et voilà. Donc vous pouvez retenir, donc les fées sont débiles dans le vôtre.
On a beaucoup parlé des fées la semaine dernière, mais Eric va me corriger si je me trompe, mais normalement comme association, il y a beaucoup de créatures fantastiques, mais pas de fées.
Non, il n'y a pas de fées, il y a des créatures, on explore quand même une bonne partie du bestiaire fantastique, puisqu'on retrouve des vampires, évidemment. Alors c'était, on avait commencé comme association juste après la grande mode de Twilight, donc il fallait remettre un peu les vampires à leur place, c'est-à-dire une mauvaise place. On a fait des trafiquants de drogue, des gens peu recommandables. Il y a des loups-garous également, qui sont séduisants par leur bestialité, mais également terrifiants. Il y a deux clans ennemis. On trouve des trolls également, que j'avoue, avec Pierre, on a vraiment voulu s'amuser et on revendique des influences. Et notre troll est bien sûr directement inspiré d'Ebus, le fameux troll de Troie. L'humour mordant, et on trouve également des élémentaires, on trouve un petit peu tout ce qu'on avait voulu mettre. On n'a pas évidemment pu tout mettre, puisque dans les livres prévus avec Ombe, auraient dû apparaître d'autres créatures qui n'ont pas eu le temps de s'imposer. Mais donc les créatures qui interviennent dans A comme association, il y a quand même pas mal de débiles aussi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être forcément fait pour être débile. Il y a des créatures bien faites. Et c'est de toute manière le ton général de la série, qui est une alternance de délire, de poésie, de réflexion, enfin un petit peu tout ce qu'on aimait écrire avec Pierre.
Et les créatures fantastiques sont remises justement à leur place traditionnelle en termes de caractère, de comportement, ou est-ce qu'elles sont détournées?
Bon, pas toujours. Nos trolls qui sont philosophes, par exemple, on est loin des trolls de Tolkien. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, mais en règle générale, on a essayé de partir des images qu'on avait de ces créatures, quitte ensuite à les malmener un petit peu. Mais c'est ça qui est assez incroyable aujourd'hui avec cette littérature fantastique. C'est que ces créatures qui n'existent pas dans la réalité, ça c'est parce que l'association fait bien son boulot, enfin, on pense qu'elles n'existent pas dans la réalité, mais elles existent dans l'imaginaire de la plupart des gens. C'est-à-dire que quand on dit vampire, même si ça n'existe pas, tous les gens voient de quoi on parle. Et ça, c'est absolument incroyable et génial de pouvoir s'appuyer sur ces acquis de l'imaginaire pour écrire des livres dans lesquels on peut parler de vampires sans avoir à les décrire 100 ans. On donne juste des petites caractéristiques qui vont aider à les identifier. Mais voilà, de la même manière que... là, on quitte le genre, après je me tais. Quand Jules Verne a écrit « Un milieu sous les mers », ben, il a été obligé de décrire très longuement son sous-marin, parce que bon, peu de gens avaient vu le sous-marin. Aujourd'hui, quand j'écris un livre qui met en scène des vaisseaux spatiaux, pas besoin de s'éterniser, quoi. Il y a mille images qui apparaissent dans la tête des lecteurs, il suffit que je les recadre un petit peu, grâce au cinéma, toute cette banque d'images cinématographiques et de BD, d'illustrations.
Voilà. Avant de poursuivre, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Pas de questions. Moi, je voudrais savoir si l'expérience fantaisie urbaine, qui se résume à un ou deux romans pour certains d'entre vous, à une série entière pour l'autre, l'expérience a été tellement enrichissante que vous avez envie de continuer dans cette veine, de faire d'écrire un nouveau roman. Voilà. Anne.
Nous, pour l'instant, on a la suite d'American Phase, mais on n'a pas prévu de l'écrire parce qu'on est chacun sur nos propres projets. Donc c'est, voilà, on va parler d'histoire comme ça. Oui, j'ai un autre roman de fantasy urbaine en préparation, mais qui n'a absolument rien à voir, parce que moi j'aime bien explorer justement l'univers des fées, même si ce sera que le troisième, et là ça, je reviens plus au clairvoyage, il y a des choses plus poétiques, et voilà, mais de toute façon c'est les fées, ça a vraiment imprégné mon enfance, mon univers de lectrice, voilà, donc je pense que c'est un genre auquel je reviendrai toujours.
Moi, j'ai pas de projet, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est quand même un genre qui est assez large et assez libre. Et puis c'est toujours assez marrant de jouer avec des archétypes, des créatures fantastiques qui éveillent quelque chose automatiquement dans l'esprit des gens. Et puis d'essayer de les mettre dans des situations dans lesquelles on n'a pas tellement l'habitude de les voir. Donc, marrant de jouer sur le décalage. Donc, je pense que personnellement j'aime bien ça, j'aime bien lire. Bon, pas tellement cinématographiquement, c'est pas un truc qui est très très commun. Donc oui, un jour, pas demain, mais pourquoi pas.
Alors, très amusant effectivement de jouer sur ces décalages. Oui, mais après, pour revenir sur la question avec un autre sens du mot. Absolument pas enrichissant dans la mesure, c'est sans doute mes livres adultes qui ont le moins bien marché, ça passe pour rien dessus. Donc j'avoue que ça m'a refroidi pas mal pour revenir au genre. Alors, je les ai écrits il y a une dizaine d'années à peu près, je sais pas, c'est une question d'époque, non, j'en sais rien, mais voilà, du coup ça m'a un peu vacciné, j'avoue.
Tu n'as pas répondu.
J'ai pas répondu, c'est vrai.
Tu ne comprends pas.
Oui, je ne sais pas si je reviendrai à l'urban fantasy. C'est le sentiment d'avoir dit un petit peu ce que j'avais à dire dans ce genre. Voilà. Mais après, nul n'est à l'abri des surprises.
Une rechute.
Une rechute d'une idée qu'on trouve absolument géniale sur le moment. Et puis, une fois qu'on s'en empare et qu'on essaie de la concrétiser, de se dire oh, c'était vraiment une idée nulle.
Voilà. Bien. S'il n'y a toujours pas de questions, je pense qu'on va...
Si. Ah. Bonjour, moi j'ai juste une remarque. Monsieur Lhomme, vous avez un goût un peu ruiné, parce que ma fille, elle a dû lire presque tout ce que vous avez écrit, et ça m'a coûté très très cher.
Surtout chez Kier. C'est une demande de remboursement.
J'ai donc une requête, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui, est-ce que je pourrais prendre une photo de vous tous ensemble pour amener une dire, voilà. J'ai vu, c'est pas un printemps, c'est bien.
Il existe.
Tout ce que vous voulez, tant que vous ne me demandez pas le remboursement des livres.
On va faire une allocation, Eric Lhomme.
Et encore, j'estime que mes lecteurs ne sont pas les plus à plaindre, puisqu'on me trouve en poche très facilement, ce qui fait le bonheur des lecteurs et le malheur des auteurs.
Merci beaucoup. Je remercie tout le monde d'être venu assister à cette table ronde et aux auteurs d'être prêté au jeu. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.
Merci.